Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Et on est ensemble dans ce fabuleux dimanche de sport avec de la Formule 1, avec du tennis, avec du foot, du rugby, du basket. Il y en a pour tout le monde, du cyclisme même. On n'en a pas parlé. Tiens, on est avec Alizé Cornet, avec Christophe Cessieux, avec Sarah Pitkowski, avec Jérôme Pinot. Henrik Maas va gagner la Vuelta, Jérôme.
Eh oui, un très beau coureur. Alors je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit que c'était pas mon vélo parce que je le trouvais un peu au-dessus et finalement sans intérêt cette Vuelta, mais c'est quand même un grand coup de chapeau à ce coureur qui tourne autour depuis 10 ans et il va gagner sa première Vuelta avec une équipe qui n'était pas forcément très forte, une belle solidarité, la Movistar, et un coureur qui touche son Graal, et tant mieux parce que c'est un très beau coureur et c'est finalement il a plus de 30 ans,
il a 31 ans,
ouais. et il est l'homme de fin de saison. J'ai dit une grosse bêtise la dernière fois, mais à coup de pas. C'est un garçon qui est régulièrement sur le podium. Et sa saison, c'est Vuelta, Lombardie, championnat du monde. Voilà les trois courses qu'il. Mais il est régulièrement à très haut niveau. Il a encore hier été très très costaud.
Arrivé finale aujourd'hui à Grenade.
Hein, alors le suspense, est-ce qu'on va geler les temps comme à Montmartre ou pas? On ne sait pas. C'est une arrivée très très technique à Grenade. Par contre, une très très belle dernière étape.
Tu veux geler Olivier les temps?
Non, je
non, mais c'est parce qu'ils vont grimper la montée de l'Alhambra à plusieurs reprises, donc ça peut être un peu dangereux.
C'est un peu dangereux.
Comme à Montmartre.
À l'Alhambra.
Alhambra.
Dernier vainqueur espagnol sur la Vuelta, c'était Alberto Contador en 2014. Mais pistolet,
je note.
Oh, non, mais on l'a déjà fait,
c'est pistolet.
Tiens, les amis,
avec un représentant d'une équipe française sur le podium, hein, Félix Gall sera bien sur le podium de la Vuelta.
Les grandes gueules, petit coup de chapeau parce qu'on a parlé de Céline Dion et tout ça. Vous savez que hier soir, il y a eu la première représentation de David Douillet dans sa pièce de théâtre.
Hein. Ah oui, ça
va. Je croyais qu'il était en avant-première, Céline Dion, j'ai eu peur.
Qui est allé le voir?
Eh ben, il faut qu'on y aille tous ensemble. Il faut qu'on y aille tous ensemble. C'était à Lyon. Ben parce qu'en fait, Céline avait pris la salle à Paris. Il pouvait rester Lyon pour David. Et donc, ben voilà, ben, il faudra qu'on y aille tous ensemble avec tous les auditeurs et auditrices. Tiens. On va demander à David si on peut avoir des places pour tout le monde, pour vous toutes. Je rappelle qu'on est
près de Lyon. On va quand même pas y aller gratos, quoi.
Ben non, mais attends,
on va te faire payer.
Je veux dire, on va pas y aller en payant plutôt. C'était un lapsus.
Oui. Mais non, mais c'est bien. Je me suis dit, mais quelle femme de valeur. On va quand même pas y aller gratos.
On va quand même
non,
pas sortir
en
fait, de l'argent pour aller voir
pas payer. Allez, vous retrouvez la première des grandes gueules du sport. Évidemment, en podcast, on a beaucoup débattu sur la France. Est-elle un pays de sport à la veille de la fête nationale du sport? Il y a beaucoup de messages, hein. Il y a beaucoup de victoires qui sont venues. Évidemment, c'est un sujet qu'on refera, bien sûr, vous le savez, dans un instant. Le tennis avec l'US Open, Shelton Zverev, une finale inédite qui fait du bien au tennis ou pas? On va en parler, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. En fin d'émission.
On n'est pas d'accord avec Alizé sur ce sujet, non?
Non, mais c'est pour ça qu'on le fait aussi.
Ah ouais. Enfin,
c'est pour ça, ça va être bon débat. En fin d'émission, participez au jeu du sport. Avec vos GG, vous pouvez remporter ce week-end un appareil photo numérique compact doté d'un double écran qui s'appelle le DC 9200 d'Agfa Photo. Vous pouvez le remporter avec un bon photo également pour imprimer vos photos. Ça peut servir accessoirement pour remporter votre lot Agfa Photo. Envoyez sport au 732-16. Sport au 732-16. Mais d'abord, c'est l'événement. L'équipe de France de basket féminine en finale de la Coupe du Monde ce soir à 20h face aux États-Unis. Soirée spéciale sur RMC. Jamais une équipe de France n'a été championne du monde en basket. Il y a 2 ans, un petit point seulement avait séparé Team USA de la France aux Jeux Olympiques. On va écouter Carla Leite, la meneuse des Bleus, qui annonce la couleur.
RMC, la punchline GG.
On est trop excités, je pense. On en revient pas, honnêtement. Enfin, c'est une dinguerie. On est sûr de repartir avec une médaille, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, plus qu'à aller chercher l'or. Je pense qu'on réalise pas trop. On est juste trop contente. Et on a trop hâte de jouer demain contre le vainqueur de ce soir. Peu importe, en vrai, on est la majorité à savoir affronter en WNBA, donc on n'a pas peur d'elle. L'objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or.
La punchline, c'est celle-là. On n'a pas peur des Américaines. On n'a pas peur des Américaines. Les GG, est-ce que l'expérience de Paris 2024 rend l'exploit possible? Je rappelle que les États-Unis n'ont pas perdu un match depuis 2006.
Oh la vache.
À l'époque, Christophe avait 60 ans.
Oh, le blanc. Non,
en plus, tu sais quoi? Je me suis dit que j'allais arrêter cette année, ce genre de truc. J'arrête.
C'est mais la vieillophobie.
Ah, mais c'est pour ça que tu disais ça hier. Ça y est, je comprends maintenant.
Tu sais, ça fait des mois que je suis harcelé. On se rend pas compte, hein. Mais je suis harcelé par évidemment ce meneur qui est Georges Quirino, mais emmené par toute la jeune bande d'RMC, je me fais traiter de vieillard acariâtre aigri à longueur de journée, Christophe, à longueur de semaine.
T'es dans ta prime, Christophe.
Ouais, c'est
sans doute pas.
Toi, tu chambres pas, tout ça.
Jamais.
Didi, le côté acariâtre n'a rien à voir avec la vieillesse. Tu l'as depuis un moment. Pour être là depuis une vingtaine d'années, ce côté acariâtre, je le connais bien.
Tu vas pas t'y mettre aussi, je croyais que t'étais ma complice, dis donc.
Allez, on vient au basket. L'expérience de Paris 2024 rend-elle l'exploit possible? On met la musique, Marilou. Alizé Cornet.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Oui.
On remettra la musique plus tard. Jérôme.
Pas que l'expérience, mais oui, possible.
Sarah Pitkowski. Christophe Cessieux.
Ouais.
Ouais.
Bon, bah.
C'est un petit ouais.
Mais est-ce que ça sera suffisant? Ça, je sais pas.
On vous attend au 32-16 sur WhatsApp pour réagir. Félix Gabory est au plus près des Bleus à Berlin pour RMC. Salut Félix.
Salut Georges. Salut les GG. Salut tout le monde.
Tu as suivi la campagne de nos Françaises, Félix. Mentalement, toi qui les vois, qui a parlé avec elles au quotidien, elles sont davantage prêtes qu'il y a deux ans pour affronter les Américaines?
En tout cas, ça fait depuis le début de la compétition qu'elles ne pensent qu'à ça, les Bleus. Ce qui est marquant quand on parle avec elles après chaque match, c'est ce sentiment qu'elles sont en mission ici en Allemagne. Il faut quand même se rendre compte que les Bleus n'avaient plus décroché de médaille dans une Coupe du Monde depuis 1953. Donc elles pourraient déjà se dire que le tournoi est réussi, mais c'est pas du tout ce qui ressort de leur discours après les matchs quand on leur pose la question. Alors oui, les Américaines sont invaincues en compétition internationale depuis 20 ans. C'est un chiffre qui est complètement dingue. Mais les Françaises n'ont aucun complexe d'infériorité. Sur les 12 joueuses de cette équipe de France, 8 sont en WNBA, c'est la prestigieuse ligue nord-américaine. Donc elles affrontent toute l'année les Américaines, qui sont un peu comme leurs collègues de bureau. Et parmi ces Françaises de WNBA, il y a évidemment Gabby Williams, la capitaine des Bleus, franco-américaine, et elle a ramené une mentalité très US dans ce groupe. Ce côté, j'ai pas peur de clamer haut et fort, mais mes ambitions, c'est une mentalité qui est très US. D'ailleurs, avant la demi-finale, elle a une phrase très intéressante face à nous, les journalistes français. Elle a dit, je cite, sur les précédentes compétitions, les autres équipes sentaient de l'insécurité en nous, et pour y remédier, il faut entrer sur le terrain avec le sentiment d'être les meilleurs. Donc je trouve que ça résume plutôt bien l'état d'esprit de ce groupe qui rêve très très grand ici à Berlin.
Ouais, c'est ça, montrer qu'il n'y a plus de fébrilité mentale en tout cas pour cette équipe de France. Merci Félix. Depuis Berlin, donc, pour cette finale de la Coupe du Monde, Alizé, l'exploit est-il possible avec l'expérience de Paris 2024? Est-ce que ça sert?
Évidemment que ça sert. Quand on perd contre une équipe, contre la meilleure équipe du monde depuis des décennies, et qu'on perd à seulement un petit point, ça doit donner une confiance incroyable. Et puis là, les Françaises, elles ont quand même gagné 5 matchs. Elles ont laissé aucune chance aux Allemandes en demi-finale. Elles ont déjà rempli le contrat en ayant pour sûr une médaille d'argent.
En respectant leur rang, en fait.
Dans le championnat du monde. Mais là, elles peuvent vraiment aller chercher la médaille d'or. En tout cas, avec cette mentalité. Moi, j'aime bien cette mentalité d'y croire, de ne pas avoir peur des Américaines. Alors, c'est sûr que c'est l'épouvantail, hein, les Américaines. On va pas se leurrer. Il va falloir sortir un grand, grand match pour pouvoir les battre. Mais moi, j'y crois. Je pense que cette expérience que ça leur montre qu'elles pouvaient vraiment toucher du doigt le fait de les battre, ça va forcément déjà leur apporter des éléments tactiques. Je pense qu'elles vont pouvoir se servir de ce match référence pour pouvoir aborder cette finale.
Toi, dans ta carrière, quand tu as accroché une chose importante, ça te sert forcément pour la fois d'après.
Bah, si tu prends, entre guillemets, désolé pour le mot, une branlée contre quelqu'un et que tu dois l'affronter sur un prochain match, c'est pas forcément là où tu as les meilleurs repères.
Avant de battre Serena Williams, tu l'as peut-être accroché avant.
Serena Williams ou d'autres. Et dans le sens, l'inverse fonctionne également. Quand tu perds facilement contre une adversaire et que tu ne trouves pas les clés pour l'embêter, là c'est un peu inquiétant. Là, ça n'a pas du tout été le cas à Paris. Et moi, je pense que ça peut vraiment leur donner des clés pour essayer de créer l'exploit aujourd'hui.
Tiens, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane dit qu'il ne faut pas parler de revanche, en tout cas dans le carburant de cette équipe. Non, mais franchement, moi, alors peut-être nous journalistes avec Christophe, on est un peu naïfs, mais moi j'ai quand même tendance à penser que tu rentres sur le terrain, tu te dis, elles nous ont tapé chez nous il y a deux ans, on va leur montrer désormais que
chaque match est nouveau. Non, mais
franchement, vous n'y pensez pas, les sportifs?
Tu penses pas à une revanche si tu. À Paris, c'était le match de leur vie, le match d'une vie.
Mais là, c'est le cas aussi. C'est pas marqué l'histoire du sport, carrément.
Non, parce que là, c'est la suite. Parce que je pense qu'à Paris, on s'attendait pas à un tel parcours là. Elles sont là où on les attend, finalement.
Oui, ça fait 2 ans.
Et je pense que la pression, elle est presque plus du côté des US. Parce que cette équipe française, elle a fait peur toute la compétition. Elle a marché sur tout le monde. Hier, elle a balayé l'Allemagne. Les Espagnols ont accroché les Américaines. Alors, je te dis pas que la France est favorite face aux Américains, mais cette expérience des Jeux leur a servi pour comprendre une chose, c'est que l'écart, il est pas si immense, et que c'est faisable, et qu'à un point près, elles étaient championnes olympiques, et donc, sur un championnat du monde.
Elles jouaient la prolongue.
Et les séries sont faites pour être brisées. À un moment donné, de toute façon.
En tout cas, 2006, France n'a jamais été aussi proche du niveau des Américains.
Franchement,
grâce aussi au fait que les filles jouent en WWE, NBA, là. Elles jouent les unes contre les autres en championnat régulier.
Le fait d'évoluer à ce niveau-là toute l'année, ça change la donne.
Une équipe américaine qui a moins d'expérience ensemble que l'équipe française, puisqu'il y a moins de la moitié de l'équipe américaine qui était à Paris 2024, qui est là.
Tu penses que ça compte?
Moi, je pense que ça compte. La preuve, c'est ce que Gabby Williams le disait. Elle joue ensemble. Et hier, Marine Johannes nous l'a dit à l'antenne en disant que Il y a quelque chose dans ce groupe France, en fait. Il y a quelque chose dans ce groupe France. Elles jouent aux États-Unis, elles ont l'expérience d'affronter les Américaines, mais il semblerait qu'il y ait vraiment un groupe qui soit né et que celui de 2024 aujourd'hui a une histoire à écrire, parce que mine de rien, le basket. Enfin, la France est une grande nation de basket et il manque un titre de champion du monde. Parce qu'on parle historique, mais c'est pareil chez les mecs.
Mais il manque un titre mondial en basket français.
Ils n'ont jamais eu mieux qu'une médaille de bronze.
Ouais, c'est le sport des Américains.
C'est le sport américain.
Par excellence. Il n'y a qu'une nation qui a réussi à les battre par le passé. C'était l'URSS, quoi. C'est tout. Depuis, plus personne ne les a.
Et si ça s'appelle l'URSS, c'est que ça fait un petit moment.
Oui, parce que depuis que c'est la Russie, c'est plus ça. Mais c'est quand même le pays du basket par excellence. C'est vrai qu'on les a regardés dans les yeux il y a 2 ans. Maintenant, à arriver à les battre, tu dis qu'on a changé, l'équipe a été changée, mais enfin, le réservoir de basketteuses aux États-Unis, je veux dire, toutes les gamines jouent au basket aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, même s'il y en a de plus en plus. Mais ils ont un réservoir tout simemment incroyable et des structures incroyables. Tout le monde. Les plus grandes joueuses au monde jouent aux États-Unis.
Tu as raison, en individualité, mais on sait que la différence peut se faire sur un groupe. Donc si le groupe France est très fort et qu'en face, il y a des joueuses qui ont certes du talent, mais on est d'accord qu'elles ne vont pas écraser les Américaines. Si ça passe, ça va jouer dans les dernières secondes.
C'est là où ça peut faire la différence. Vraiment, le collectif.
Il y a un élément qui est important, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, Alizé, quand tu joues face à des grandes championnes comme Williams, par exemple, la première fois, c'est sacré. Et finalement, quand tu arrives à jouer contre elle, l'accrocher, la battre, tu désacralises complètement. Et en plus, elle joue avec elle tout au long. Quand tu côtoies tes idoles. Moi, quand je suis arrivé la première fois dans la grande gueule du sport, j'ai vu Christophe Cessieux. Ouais. J'étais intimidé. Maintenant, je vis avec lui. J'ai un peu désacralisé le bonhomme, tu veux.
Beaucoup plus performante.
Évidemment. Elle se côtoie leur championnat. Évidemment, tu désacralises la chose parce que tu les connais. Tu as des moments de vie aussi en dehors du terrain. Et quand tu rentres, t'as plus la trouille, en fait. Tu fais sauter ces barrières que t'avais avant.
Mais il faut être conscient quand même de l'exploit que ça serait. C'est comme Brésil à une époque au football où l'Allemagne dominait tout. C'est comme battre les Soviétiques en hockey sur glace. C'est ces espèces d'endroits normalement
C'est comme battre
Sinner en finale d'un grand chelem. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages et à nous appeler au 32-16. Tiens, Seb nous appelle du Val-de-Marne dans les grandes gueules du sport. Salut Seb.
Salut les équipes, salut
grandes gueules
du sport.
Salut, ça va? Ça va parce qu'on a un grand dimanche de sport qui nous attend. Et toi, tu crois aux Françaises?
Bien sûr. Je rêvais que d'une chose, moi, justement, vous parliez de revanche. Je rêvais que ce soit les Américaines qui passent. Voilà. Et pour moi, faut plus parler d'exploit, parce que maintenant, comme vous avez dit, quand vous voyez le contingent de joueuses qui ont leur importance dans leur équipe, en WNBA, notamment la petite Carla Leite à Portland, qui sont admirées par les gamines américaines, pour moi, faut plus parler d'exploit. Elles vont les jouer les yeux dans les yeux. Et quand on voit la demi-finale des Américaines, ça a été très poussif jusqu'au quatrième carton. Kathleen Clark, je l'ai trouvée pas bien. Elle n'était pas
la star américaine.
Même ouais. pas. Elle n'était pas bien dans le tournoi. On la sent pas épanouie. Contrairement à l'équipe de France, qui elle, on sent les joueuses. Il y a une cohésion. Il y a de l'entrain. Il y a de la joie. Les Américains, je les ai trouvés un peu poussifs. Mmh. Et en plus, on a un petit peu eu la chance des champions, parce que quand on a joué contre la Chine, qui ont joué la veille, donc forcément, ça facilite la chose. Mmh. Donc pour moi, faut pas parler d'exploit. Et ce soir, la série, s'il y a bien une série qui doit s'arrêter, c'est ce soir à
20h. C'est ce que disait Alizé.
Les conditions sont réunies. Ouais.
Voilà, les conditions sont toutes réunies pour que ce soir, la série, elle s'arrête. Et il n'y a pas d'exploit. Elles vont les jouer les yeux dans les yeux. Mmh. Et en plus, les Américaines pouvaient avoir cette maladresse qu'elles ont eue en 2000 finale et que Marie-Joannès pouvait avoir cette adresse-là, c'est parfait. Mais toutes les planètes sont alignées. Comme elles ont marqué sur leur tableau, vous savez, elles ont un petit tableau à leur hôtel, la pression est un privilège.
Bien sûr, bah, donc, tu sais,
c'est Billie Jean King qui disait ça.
Et tu sais le nom du livre de Pascal Duprat également.
Alors, ce serait pas un exploit, mais ce serait quand même une performance XXL quand même.
D'ailleurs, c'est assez étonnant ce peu de temps entre les demi et la finale. Je trouve que c'est
comme ça au basket. Ça joue tous les jours.
Tous les jours, ouais. Le petit supplément d'âme, moi je rejoins Sarah, il va être quand même hyper important. Là, à niveau quasiment équivalent, le petit supplément d'âme d'un collectif qui vit bien, qui a des super repères par rapport à ses matchs précédents, moi j'y crois.
Non, mais c'est ça. En fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de vertige là, une possibilité.
On arrive à un point où on va regarder cette finale en se disant est-ce qu'on va les taper. Ouais. Avant tu disais c'est quand la cérémonie qu'on a cherché la
première ronde. Avant tu disais combien de temps tu vas tenir, un quart temps, deux quart temps.
Regardez quand les Français sont en médaille d'argent aux Jeux Olympiques avec la bande à Céline Dumerc, c'était les braqueuses. C'est-à-dire qu'en fait t'arrives, c'est déjà un braquage de réussir à faire une médaille. Le discours a changé. Tiens, c'est intéressant. Seb nous disait il faut pas parler d'exploit. On a Loïc qui nous appelle également depuis le Haut-Rhin. Au 32-16, salut Loïc.
Salut les grandes gueules. Bon. Ah bah, ça fait plaisir.
Hein. Salut. Ah bah, ça fait plaisir de t'avoir dans les grandes gueules. Il faut pas parler d'exploit aussi pour toi. T'as écouté Seb il y a quelques instants.
Ouais, non. Moi, enfin, de toute façon, j'ai été basketteur. Bon, je salue juste tous les athlètes handy de France. Parce que moi, j'ai été basketteur et j'ai perdu la vue. Donc voilà.
On les embrasse.
Il me reste un œil, donc j'ai réussi à suivre tout le match des filles avec mes lunettes loupes. Bref, moi ce que je voulais dire, c'était cette équipe de France, elle me fait trop plaisir. Et en même temps, je voulais souligner, comme a dit le gars d'avant, Carla
Leite, la meneuse de l'équipe de France.
Carla, parce que Carla elle a un super parcours. Elle sort de l'académie de Tony Parker qui donnait la chance aux gamins de pouvoir suivre un cursus pour peut-être devenir basketteur professionnel, que ce soit garçon ou fille. Et Carla, ça fait plus de 5 ans que je la suis. Et la gamine, elle s'est battue pour en arriver jusque-là. Et de Tarbes, elle est passée à la WNBA. Là, elle est un petit peu timide, c'est ses premiers championnats du monde. Mais hier, par exemple, elle a fait un airball à 3 points. Mais par contre, elle a fait deux exploits défensifs où elle s'est rattrapée derrière. Et Jean Aimé, de toute façon, bon, ça va que je suis vieux.
Cette équipe a un mental, en fait. Elle et les autres, en fait. Ça montre quelque chose.
Carla, c'est une super défenseuse. Et hier, ce qui a fait la différence, et je suis d'accord avec le gars d'avant aussi, si Marine, elle retrouve un peu d'adresse à 3 points, parce qu'excusez-moi du terme, elle a fait un match dégueulasse hier, au niveau adresse. Et Dominique Malanga, un peu maladroite en dessous. Par contre, si elle retrouve justement cette efficacité qu'elles ont eue pendant le tournoi entre Marine et Dominique, plus Pauline Assier qui sort du banc en rotation avec Carla, franchement, moi on peut taper les Ricaines.
T'y crois, Loïc, hein?
Ah ouais, moi franchement on peut taper les Ricaines.
Mais vous y croyez tous. Hein, franchement, Loïc, que ce soit toi Loïc ou Seb il y a quelques instants, et sur WhatsApp, j'ai plein de messages, hein, Braco qui me dit j'ai vu le match États-Unis-Espagne hier, attention, ça peut le faire. Il dit attention à 3 points surtout aussi pour les Américaines, mais vous êtes nombreux à y croire. Tiens, Dominique Malanga, joueuse de l'équipe de France intérieure, l'expérience de Paris 2024 va servir?
Je pense qu'elle va beaucoup nous servir parce qu'on a justement déjà été dans cette position, une grande finale sur la plus grande scène. On n'aura pas froid aux yeux entre guillemets parce qu'on aura déjà été dans cette position. Maintenant, ce sera un setting complètement différent, l'équipe est différente. On ne veut pas forcément prendre l'exemple de cette finale, je pense qu'on veut refaire un nouveau match. Et dans tous les cas, si on joue notre basket, le basket qui nous a amené ici, on peut battre n'importe qui.
Mais voilà, elle parle comme les Américaines, en plus ce sera un setting complètement différent ce soir. Ce seront des paramètres différents pour affronter Team USA. Je vous remercie d'avoir été avec nous au 32-16. J'ai l'impression que tout le monde est assez enthousiaste quand même. Christophe, playoffs un peu moins quand même. Hein.
Ouais,
un peu moins.
Je demande à voir. Cette équipe américaine, elle est challengée. Les Françaises se voient belles. Attention, la fessée.
Un jour, on a battu les All Blacks.
Je me rappelle qu'un jour, on a joué un quart de finale de Coupe du Monde de rugby. On était sûr de battre les Box. On était chez nous. C'était la Coupe du Monde. Et le soir même, on est reparti avec les fesses. Ça arrive aussi. Je veux dire, à un moment, il faut regarder la qualité de l'adversaire, pas uniquement nos qualités. Cette équipe américaine, si elle est là, c'est pas par hasard. On a l'impression qu'aujourd'hui, parce que les Françaises les ont accrochées, elles sont au-dessus
d'elles. Il y a un élan.
Calmez votre enthousiasme.
Pourquoi calmer notre enthousiasme?
Ce soir, on va vivre ensemble cette grande finale sur RMC. Stephen Brun sera avec nous également. Venez participer dès 20h, finale en direct en intégralité avec un magnifique programme. On suivra France-États-Unis depuis Berlin. Il y aura l'US Open aussi. Sacha Zverev face à Ben Shelton. On va en parler justement dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, dans un instant, le j'y crois pas. Mais d'abord sur le ring. Le tennis, parce que vous savez qu'Alizé Cornet a agité les internets hier avec sa grosse position sur la finale masculine. Mais on va en parler justement parce que le tennis, il a changé, comme dirait un grand philosophe. Pas d'Alcaraz, ni de Sinner en finale de l'US Open ce soir. Et si un Américain était sacré sur le court Arthur Ashe?
RMC, le ring des GG.
The biggest moment of Ben Shelton's career. He beat Carlos Alcaraz in the quarterfinals. He's beaten Francis Tiafoe in the semis.
Et oui, c'était la victoire en demi-finale de Shelton face à Tiafoe dans la demi 100% américaine. Et on attend donc un tout nouveau roi à New York ce soir. Donc ce sera Zverev, vainqueur à Roland-Garros, finaliste à Wimbledon cette saison, face donc à Ben Shelton. 23 ans que tous les États-Unis attendent évidemment, parce qu'il n'y a pas eu de vainqueur américain à l'US Open depuis Andy Roddick en 2003. Première balle à Flushing Meadows à 20h également ce soir. On va le vivre sur RMC dans cette magnifique soirée. Sur le ring, je vous pose la question. Shelton Zverev, une finale inédite qui fait du bien au tennis. Christophe Sessieux, vous me répondez quoi?
Ouais, pour Shelton, oui.
Bah,
Sarah. Shelton, c'est du bien.
Oui, absolument.
Jérôme Pinault,
Je trouve ça change, c'est bien.
Alizé Cornet,
je ne dis pas non,
mais pas forcément.
Pour Shelton.
Vous votez sur le compte X des GG du sport. Eric Salieu, notre voix du tennis, est à Flushing Meadows pour RMC. Salut Eric.
Bonjour les grandes gueules.
Eric, salut Eric. Raconte-nous à quoi ça ressemble sur place. Est-ce qu'il y a une Shelton mania avant la finale?
Oui, c'est peut-être l'élu, hein, pour reprendre une expression que vous aimez bien. Ouais. Shelton a marqué les esprits en quart de finale en éliminant Carlos Alcaraz à l'issue d'une rencontre insensée, finie à 3h33 du matin. Ça fait 23 ans que les Américains attendent un successeur à Andy Roddick, et Ben Shelton a tout pour lui. Un bras gauche qui dégaine des services à 240 km/h, des jambes de feu et un vrai charisme. Écoutez un extrait de son discours sur le court après son succès vendredi face à Frances Tiafoe.
Je vais avoir besoin de vous pour m'apporter de l'énergie. Je vais tout donner sur le court. Faisons-le pour les États-Unis.
Un appel au peuple qui pourrait être utile face à l'ennemi public numéro 1, Sacha Zverev. L'Allemand peut remporter son deuxième chelem de l'année. Ce serait mieux que Sinner et Alcaraz. Ça fermerait des bouches. Il s'attend à une chaude ambiance, mais estime qu'il a connu le pire à Paris.
J'aime bien ce genre d'ambiance. J'ai déjà joué contre beaucoup de Français et je pense que le public le plus hostile qu'on peut avoir, c'est quand on joue contre un Français à Paris-Bercy. C'était vraiment intense à l'époque et j'ai toujours adoré ça. La foule de Wimbledon est encore différente, mais pour moi c'est toujours bien d'avoir un public énergique et bruyant tant qu'il est juste et qu'il n'interrompt pas les matchs.
They don't interrupt. Sacha Zverev sous-estime probablement le vacarme assourdissant que peuvent créer les 23 000 spectateurs du stadium Arthur Ashe. Il doit se préparer à entendre ceci très souvent. Let's go Ben, USA, USA, ça va faire du bruit. Le caractère historique de cette finale n'échappe à personne. Le tout New York va accourir à Flushing Meadows, à commencer par Jalen Brunson, le basketteur star des Knicks. Shelton a noté sa présence vendredi soir dans une loge.
Bah oui, c'est important de, les joueurs qu'on aime bien de savoir qu'ils sont là. Jalen Brunson, celui qui a été champion NBA, oui, avec les Knicks, effectivement ça a été la folie à Big Apple, à Manhattan évidemment. Shelton Zverev, une finale inédite qui fait du bien au tennis, vous dites oui à 63% sur le compte X des GG pour l'instant. Alice, avant de t'écouter, tiens, Christophe, avant d'entendre les spécialistes du tennis là, toi, Shelton Zverev.
Bah oui, oui, c'est toujours intéressant d'avoir une finale un peu différente. C'est vrai que depuis quelques temps, même si cette année ça a été moins le cas, mais on a eu beaucoup de Sinner Alcaraz, on avait l'impression que les deux-là étaient vraiment au-dessus du lot et qu'on était parti pour une longue période de domination. On voit finalement qu'il y en a d'autres qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Zverev, notamment, Zverev qui a su profiter du coup de chaud de Sinner à Roland, de la blessure d'Alcaraz, pour emporter son premier Grand Chelem. C'est pas le joueur que j'apprécie le plus, hein, mais en revanche, je trouve que ce Ben Shelton, il a quelque chose. On dirait presque un boxeur, quoi. Tu vois, il rentre sur le ring ou sur le court central
avec son débardeur,
son débardeur. C'est puissant coup droit.
C'est service à 240.
Voilà, c'est le cowboy, qu'on adore, le genre de mec qu'on adore aux États-Unis. Et voilà, et je trouve que c'est plutôt rafraîchissant.
Ça te donne envie, en tout cas. Ça te donne envie.
Voilà. Bon, après, c'est pas le tennis le plus flamboyant qu'on puisse connaître. Hein.
C'est comme si
chatoyant, je dirais.
C'est comme si en vélo, t'avais enfin une autre dualité que Pogacar-Wengener.
Ouais, bah oui, c'est bien. Ils sont heureux dans le monde du tennis.
Jérôme, toi qui es un spécialiste de tennis, ça te donne envie de la regarder, cette finale?
Ça me donne envie de la regarder. Disons
que ça fait du bien au tennis.
Ça change un peu et ça fait du bien au tennis.
Ou est-ce que tu avais envie de revoir Alcaraz Sinner? Parce qu'on n'a pas eu Alcaraz Sinner en Grand Chelem cette saison.
C'est aussi la raison pour laquelle celle-là nous fait du bien. Puis on va avoir hâte de retrouver Alcaraz Sinner à force de ne pas les avoir. Et ça va redonner du piment et ça va redonner de l'enthousiasme aux spectateurs et même aux super connaisseurs de tennis de revoir ces deux grands qui finalement vont finir par nous manquer, parce que Sinner Alcaraz, on a hâte de revoir ces matchs, parce que même si c'est récurrent, Sinner Alcaraz, il y a du spectacle quand même. C'est des matchs de légende. Je suis pas sûr qu'on ait une finale de légende demain.
La récurrence, ça durait que même pas deux ans au final. On n'a pas eu le temps de se lasser quand même.
Non. Et puis, mais par contre, c'est vrai que, principalement pour Ben Shelton, chez lui, avec le show qu'il fait aux USA, devant un public qui va être chauffé à blanc, en plus avec Zverev en face, qui évidemment est très clivant, je pense que ça peut être très sympa à voir. Ça va être un très beau spectacle.
Sarah, toi, t'es dans la Shelton Mania à fond, c'est ça?
Shelton Mania, Shelton Mania, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien pour les États-Unis de retrouver ce niveau de tennis, ou en tout cas de revenir sur les premiers rôles en tennis masculin.
Mais, si c'est bien pour les États-Unis, c'est bien pour le tennis, parce qu'en fait, nous, Français,
bien sûr, parce que les États-Unis sont un très très grand pays de tennis, avec les plus grands tournois du monde, dont l'US Open. Mais il y a le tournoi Miami, il y a le tournoi Indian Wells. Enfin, je veux dire, le tennis aux États-Unis, c'est quasiment toute l'année. Donc, c'est indispensable que les États-Unis remarque de leur empreinte avec des grands titres.
Bien sûr, donc sur cette finale Shelton-Zverev qu'on va vivre à 20h ce soir en direct sur RMC avec Eric Salio sur place. Est-ce que cette finale inédite fait du bien au tennis? Alizé, hier t'as dit ce que t'en pensais de cette finale, t'étais pas particulièrement fan, ça a été beaucoup commenté.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire ce matin?
J'étais déjà hyper étonnée en fait du bruit médiatique qu'il y a eu autour de ce que j'ai dit hier, du fait que c'était pas forcément la finale dont j'avais rêvé au début de cette US Open. C'est vrai que, enfin, moi quand je suis autour de cette table, j'ai l'impression qu'on est en famille. J'ai l'impression d'être avec des potes, avec de la famille. Donc vous me demandez ce que je pense de cette finale, je vous dis, bah c'est pas la finale vers laquelle je vais me précipiter pour aller regarder, tout simplement parce que, et j'ai déjà dit mes arguments hier, tennistiquement c'est pas ce que je préfère. Les personnalités, Ben Shelton, il a un certain panache et c'est assez agréable à regarder. Et comme l'a dit Sarah, je pense que pour les États-Unis c'est quelque chose d'immense, mais Je vois pas vraiment la controverse dans ce que j'ai pu dire hier, donc j'étais vraiment hyper étonnée des réactions.
Ah bah t'es là pour donner ton avis en plus. Dans les grandes gueules du sport, on donne son avis.
Mais exactement. Et sachant qu'en plus, moi je suis quelqu'un de très entier, donc quand on va me demander mon avis, je vais le donner. Et j'espère avoir la tolérance nécessaire pour, par exemple, moi je suis une immense fan de Nadal et Alcaraz. Si quelqu'un demain me dit que Alcaraz et Nadal ne les fait pas rêver, bah je vais le respecter. Parce qu'en fait, chacun a sa sensibilité tennistique sportive.
Moi j'ai l'impression Nadal et Alcaraz.
Non, tu t'es Mais Sarah, c'est différent. Que tu as osé.
On ne peut pas toucher un cheveu.
Tous les masculinistes.
Tu penses que c'est ça?
Je pense que c'est ça.
Non, mais ça me paraît fou. Ou alors, peut-être le public du tennis est quand même un petit peu à cran, quoi. Parce que je me dis.
C'est pas forcément le public du tennis.
Il y a la bien-pensance.
Alors, moi, je suis un peu d'accord avec Alizé. C'est vrai que le public du tennis, le débat est rapidement un peu hystérique, quoi. C'est soit t'es Team Alcaraz, soit t'es Team Sinner. Comme à une époque, c'était Team Rafa, Team Roger. Si tu n'es pas avec moi, je suis contre moi.
C'est très tranché et on ne respecte pas, on n'est pas tolérant face à des avis différents. Et en plus, ce que j'ai dit n'enlève pas du tout au fait que Zverev et Shelton sont d'immenses champions. Moi, j'ai jamais fait de finale en Grand Chelem pour une bonne raison, j'ai jamais été assez forte pour le faire. C'est des grands champions avec des immenses carrières et je pense que j'ai suffisamment de bienveillance dans l'ensemble pour ne jamais enlever ça à un champion. Mais à un moment donné, voilà, un peu de franchise, un peu d'honnêteté, on a quand même le droit de dire qu'une finale de Grand Chelem n'est pas forcément la priorité de la journée et que je préférais regarder le basket à 20h et la finale des championnats du monde que cette finale qui me fait moyennement.
Et Alizé, moi, t'es une des seules dans le milieu du tennis à avoir le courage de dire quand même ce que tu penses sur Sasha Zverev, parce que c'est pas forcément facile de le dire ensemble. Je rappelle juste pour que
Non, pas du tout.
Tu le dis sans le dire, mais on comprend très bien ton message.
Je défrais la chronique parfois par mes déclarations, mais je suis quand même très politiquement correct. Parce que si j'étais pas politiquement correct, j'irais au bout de mon raisonnement.
Et alors,
on a envie.
Moi, je vais juste donner les faits pour le rappeler, parce qu'à chaque fois, on parle de la controverse, mais il y a des choses. Zverev, je vous rappelle, a été accusé de violence conjugale par deux ex-compagnes, dont Brenda Patea. Il a toujours nié les faits. Et dans l'affaire Patea, avec sa dernière compagne, les faits ont été, enfin, en tout cas, les poursuites ont été abandonnées en 2024 parce qu'il y a eu un accord financier
d'un demi-million d'euros.
Histoire. Voilà, exactement. De 200 000 euros. Voilà, un petit peu moins. Voilà. Donc, voilà, il y a cette, c'est plus qu'une ombre, ce sujet qui poursuit Sacha Zverev.
Mais qui le poursuivra toute sa vie maintenant.
Et qui fait que il y a quand même, pour beaucoup de nos suiveurs, les gens qui suivent Sacha Zverev, un astérisque très important, comme il y a pour Sinner également, c'est un tout autre registre pour son affaire de dopage, mais évidemment que dans le ressenti qu'on peut avoir par rapport à ces champions.
Mais au-delà de ça, même si on reste dans le sportif, on peut aussi avoir des préférences sur les joueurs et sur leur manière de jouer.
Exactement.
Moi, le tennis de Zverev, c'est pas un tennis qui m'enchante particulièrement.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais de manière intrinsèque, pourquoi cette finale est intéressante, alors, du côté de la représentation américaine? Mais parce que Zverev, il tient son rang en l'absence des deux autres aujourd'hui. Et ce qui va être intéressant, c'est quand en 2027, on va avoir forcément le retour de Sinner et d'Alcaraz. Je leur souhaite, en pleine possession de leurs moyens.
Tu crois un but fort?
D'avoir un Zverev qui a acquis de la confiance en une année, ce qu'il n'avait pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Je me demande si on ne va pas rentrer dans un Big Three.
Une autre ère de Big Three,
parce que moi, j'enlève le côté Zverev intrinsèquement.
Zverev. Et peut-être Shelton,
s'il gagne. Il a un tennis qui est largement à la hauteur d'un Alcaraz et d'un Sinner.
En ce moment, oui.
Il sert, mais c'est n'importe quoi. Il retourne remarquablement bien. Il a un tennis qui est complet, qui s'est étoffé. Et avec ce nouveau titre et peut-être ce deuxième, lui va prendre une autre ampleur. Donc, janvier 2027, à l'Open d'Australie. Et puis attention, parce que là, il est en train de rattraper en termes de points, il est en train de rattraper Alcaraz.
Là, il est numéro 1 à la race. Hein.
Attention que le 1 et 4... c'est-à-dire un Sinner et un Alcaraz qui deviendraient quatrième mondial, se retrouvent pas dans la même partie de tableau en début d'année à l'Open d'Australie. Donc, en fait, il y a plein d'enjeux différents sur cette finale.
Quelle narratrice.
On a envie d'y être.
Là,
vivement l'Australie Open.
T'as fait un peu de tennis dans ta vie, toi, là.
Non, mais du coup, j'ai pas envie de regarder la finale ce soir, mais j'ai envie de regarder l'Open d'Australie. Mais j'ai surtout envie d'écouter RMC. Bon, c'est un peu égo trip parce que c'est moi qui serai commenté ce soir.
Je voulais dire un dernier truc, Georges. Attention aussi, je voulais dire ça par rapport à nos chers auditeurs. Attention au titre putaclic, s'il vous plaît. Mais parce que des fois, il y a des phrases qui sont sorties du contexte.
Écoutez la vidéo.
Et les gens ne vont même pas voir les vidéos, ne vont même pas voir le texte en entier. Ils regardent juste le titre.
Ça,
et c'est la pire erreur. Mais ça n'empêche que j'ai envie de le dire.
Quotidien, quand tu sors de ce plateau, tu sais qu'on va en prendre plein les ratiches. Quoi que tu dises. Hein, tu
Martial nous dit sur WhatsApp, ne vous excusez pas les GG pour simplement donner votre avis. On vous attend pour ça, évidemment. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans un instant, le vestiaire, on va parler de l'acceptation de la défaite dans le sport de haut niveau. Tiens, comment on accepte la défaite? Comme Carlos Alcaraz qui cette semaine a perdu les sorties du cours Arthur Ashe, tout sourire. Oui, ça va, j'ai eu ma meilleure vie, j'ai perdu un quart de finale de Grand Chelem.
Sacrée leçon, hein.
Bah ouais, bah ok, bah Carlos, si c'est un petit, je vais t'envoyer le 06 de Christophe Cessieux.
Ah lui, il est
ça peut lui servir. Allez tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
J'y crois pas, les GG. Un sujet qu'on n'a pas évoqué encore. J'y crois pas. Un sportif doit absolument porter l'organisation des Jeux d'hiver des Alpes 2030. Sarah ?
Ah oui.
Toi, tu penses que oui. Jérôme ?
Ouais, c'est indispensable.
Indispensable ? Alizé ?
Moi, je dis pas forcément.
Christophe ?
Non.
Alors, je rappelle l'actualité de la semaine, parce qu'elle est importante, hein, c'est que Edgar Gros-Piron n'est plus le président du comité d'organisation. Hein, c'était ancien champion olympique de ski de bosse en 92. Ça a été acté jeudi lors de la réunion du bureau exécutif. Sa mission aura duré 18 mois, qui a été marquée par de multiples conflits, de multiples départs également, de Cyril Linette, qui était une GG avant ici, directeur général notamment. Et on attend désormais de savoir ce lundi qui va prendre l'intérim. Chris, tu dis
Je veux dire, il n'y a plus grand chose en magasin. Hein. On les a tous éclusés là. Fourcade a refusé parce qu'il s'est dit oulala, je vais pas aller m'embarquer dans ce nœud de vipère. Voilà.
Il y a deux régions.
Gros Piron s'est planté, mais c'est très compliqué ce truc Alpes 2030. D'abord parce que il n'y a pas eu de bagarre pour aller chercher la candidature. Donc c'est tombé tout cru. C'est régi par deux régions, deux départements ou plusieurs départements, même entre clochers, entre villages, ça se tire la bourre pour obtenir les épreuves. Donc qu'est-ce que tu veux faire là-dedans? Comment tu veux essayer de rassembler?
Si tu mets un politique, un préfet,
il faut mettre un technicien, spécialiste d'organisation de grands événements, et tu mets à la tête éventuellement, si tu veux, un sportif qui sera là, voilà, un président de la République qui sera là pour inaugurer les chrysanthèmes, serrer les paluches et dire voilà. Là, c'est magnifique, mais il faut un vrai technicien pour mettre les mains dans le cambouis.
Mais c'est ceux qui sont en dessous, Christophe. Aujourd'hui, cette candidature, ces Jeux Olympiques Alpes 2030, c'est tellement politisé, c'est même plus politisé que Paris 2024. T'as raison, tu l'as dit.
Il y a des tensions
entre les deux régions qui sont pas du même bord. Chacun tire la couverture à soi. Aujourd'hui, la personne qui doit les rassembler et.
Mais tu crois que Edgar il les a rassemblés, non?
Mais Edgar, il a été poussé dehors. Comment ça se passe? C'est-à-dire que ils se mettent en manche pour mettre quelqu'un du sport à la tête de ça. Mais ils comptent surtout sur une chose, c'est le manipuler au maximum.
Exactement.
Et faire du sportif ce qu'ils veulent eux.
C'est-à-dire une marionnette.
Là, on va voir qui sort du bois.
Il n'y a plus personne qui va sortir du bois.
Si plus un sportif ne veut y aller, ils vont être très heureux de prendre la lumière. Ces gens-là adorent ça. Mais on va voir, parce que la personne qui va sortir du bois, je serais pas loin de penser qu'elle a quand même poussé un peu Edgar dehors et vite pour le mettre en difficulté. Et par contre, ils vont faire.
Tout ce qu'a fait Edgar Gros-Piron est parfait aussi.
Ce que je veux dire, c'est que quand on parle à la communauté sportive, puisque c'est quand même un événement sportif.
Exactement.
Eh ben, il n'y a pas mieux qu'un sportif.
Tout à fait.
Et ça, faut qu'ils l'apprennent. Peut-être mal.
Mais attends, plus que pour être l'incarnation. Plus que pour être l'incarnation, c'est-à-dire aussi pour gérer justement tout l'arrière-cour.
Il a surtout été un formidable ambassadeur du sport français, de l'événement Jeux Olympiques.
Parce qu'il s'est bagarré aussi pour aller obtenir le droit d'organiser les Jeux. Aujourd'hui, il n'a pas la crédibilité. Le sportif, tu le nommerais, ouais, voilà. Bon, on n'a rien d'autre, donc on va te mettre là, président du comité d'organisation des Alpes 2030. Mais t'as pas de légitimité.
Mais c'est qui,
le fait d'avoir gagné une médaille éventuellement par le passé.
Mais qui d'autre, en fait? Mais qui d'autre?
Des mecs qui ont su organiser ce genre d'événement.
Tu crois que Tony Estanguet avait la faculté d'organiser quelque chose? Il s'est construit sur les années, il a appris et il le dit dans son livre.
Il est allé chercher la candidature, il a su fédérer autour de lui.
Mais il n'y a pas eu de candidature à aller chercher.
Là, on te l'a offerte.
Oui, ce qui est
ce qui est Donc, il y a un moment, ça change tout. Mais la difficulté.
Alors, tu mets, alors, d'accord. Mais tu mets qui maintenant?
Vas-y, je réfléchis.
Tu mets qui? Le moniteur de ski des Deux Alpes, le champion départemental.
Pourquoi pas une femme? Là, j'ai pas le nom, mais pourquoi pas une femme?
Alors, mais je sais pas, mais.
Pourquoi Sarah, t'es candidate?
Non, je suis pas candidate, mais pourquoi on mettrait pas une femme?
Bah non.
Une ancienne sportive.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Mais alors après, voilà, il y a des noms qui ont circulé. Est-ce que la présidente du CNOSF
Guachel, Marielle Guachel, tiens, voilà, elle est légitime, non, Marielle Guachel, pour organiser les jeux. Ça donnerait un espèce d'élan de jeunesse en plus à ce truc-là.
Qui a organisé la Coupe du Monde de ski? L'ancienne championne, Perrine Pellen, elle était. Perrine Pellen, elle a été la présidente des championnats du monde de ski à Val d'Isère il y a. L'année dernière,
mais qui va avoir envie d'y aller en fait? C'est ça le truc. Après, ce qui est arrivé à
personne, parce qui que va derrière, avoir envie d'y aller derrière, c'est,
parce que là tout le monde se dit Martin Fourcade avait raison en fait, bien sûr, de ne pas y aller.
Déjà, on aurait dû sentir ça a senti le roussi dès le départ quand Martin Fourcade a bien pesé le pour et le contre et dit j'y vais pas. Et déjà là, tu te dis le garçon est futé, il connaît les instances.
Mais pourquoi il est pas allé?
Il est bien intégré. Parce qu'il sentait le fumier, il dit.
Non, c'est parce qu'il a parlé avec Tony Estanguet et il a vu ce que ça a coûté. Alors, personnellement, Tony Estanguet, Martin Fourcade voulait pas perdre ses contrats personnels. Et on lui demandait d'arrêter ses contrats personnels pour pas être jugé parti.
Donc,
il a fait un choix personnel par rapport à sa vie après Alpes 2030.
Et le fait que ce soit régi par deux régions.
Ah oui.
Donc c'est d'autant plus de politiques qui s'en mêlent, ça refroidit un paquet de sportifs.
Non, il y a eu président du CNOSF. On lancerait pas un appel. On pourrait faire un sujet là-dessus.
Venez, envoyez vos candidatures en 36 sur WhatsApp. Oui, voilà. Mais je disais, la présidente du CNOSF, Amélie Oudéa-Castéra, par exemple, elle a travaillé sur Paris 2024. Elle est dans la politique et le sport.
Elle est tout à fait légitime.
Elle attend que ça.
Peut-être.
Ça peut être un profil aussi. Allez, on revient dans un instant sur RMC. On va faire le vestiaire et puis on va parler vélo aussi, Jérôme. Paul Sexas, on va l'en voir ce soir sur RMC également. À 20h, grande soirée sport, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.